Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs du Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Groupe d'Évreux pour sa seconde et dernière émission bimensuelle du mois de septembre. Donc, on est là pour, autour du micro pour vous parler des droits humains au niveau international, aussi au niveau local, ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses par rapport à ça. Et ce soir, pour vous en parler, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et il y a moi.
Didier.
Voilà, d'Angola. Et ce soir, on a un technicien qui a pris la relève. Effectivement, c'est Timothée, qu'on est content de saluer. Voilà, qui nous assure la technique pour l'émission. Sinon, on serait bien embêté pour vous parler dans le poste, comme on dit. Donc voilà, ce soir, pas mal de sujets. On va vous parler de la suite de nos actions pour la protection des droits des réfugiés et des migrants, localement, ici, à Évreux. Et puis peut-être aussi sur un plan un peu plus large par rapport à ce qui se passe sur ce sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis plusieurs mois, dont on vous parle régulièrement, mais qui continue à être essentiel pour nous. Il y aura également Mina qui va vous faire une déclaration, je ne vous en dis pas plus, vous faire une déclaration à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. On va vous parler aussi de Hongrie, c'est Claire-Lise qui va vous en parler. La situation des droits humains en Hongrie. Et ben je vais vous parler aussi du Burkina Faso parce qu'on a une information importante par rapport aux droits des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. Une information positive, donc c'est toujours important d'en parler. Et puis, différentes choses, des infos locales, etc. Donc restez avec nous jusqu'à 20h. Pour commencer l'émission, on a reçu un mail au niveau du groupe, un mail d'Amnesty International France pour vous annoncer le lancement d'une campagne de promotion qui concerne les droits humains, bien sûr, et qui porte un nom que nous, on aime bien, cette campagne qui démarre juste là maintenant, qui s'appelle « Le goût de la victoire ». Et alors donc, c'est Amnesty dit la chose suivante, « Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer le lancement de cette nouvelle campagne de communication « Le goût de la victoire ». C'est une première prise de parole publicitaire au ton résolument positif et conquérant et qui comporte un message simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble, et un slogan, on a la rage de vaincre. À l'origine de cette campagne, il y a une croyance profonde, lorsque les droits humains sont en jeu, chaque combat mérite une victoire, mais aussi une promesse, remporter chaque combat en faveur du respect des droits humains grâce à la force du collectif. Alors pour nous, ce sont des choses qui font beaucoup d'écho et dont on vous parle aussi au niveau des émissions. Cette campagne vise à promouvoir l'énergie militante de notre mouvement, à mettre en valeur son efficacité et à contribuer au développement de toutes les formes d'engagement aux côtés et au sein d'Amnesty. S'adressant à toutes et à tous, mais en particulier à un public âgé de 15 à 35 ans, et je pense que là les auditeurs de Principe Actif sont particulièrement dans cette tranche d'âge-là, la campagne met l'accent sur la joie et l'ivresse que procure la victoire et la manière dont la somme des résultats obtenus permet de tendre un peu plus chaque jour vers le changement visé et notre idéal commun. Et c'est parce que les militants d'Amnesty International croient fermement, preuves à l'appui, que les victoires sont possibles, qu'ils se battent sans relâche pour les droits humains. Un positionnement de l'association, résolument actif et positif, en rupture avec le secteur associatif, parfois culpabilisant. Amnesty International France demande non seulement le soutien de chacun pour combattre, mais surtout le soutien de chacun pour gagner. Alors dans un premier temps, il y a un petit film publicitaire qui passe dans certains cinémas, particulièrement sur le réseau UGC. Ça me fait penser qu'on pourrait peut-être demander au cinéma de nous le passer, tiens, c'est une possibilité. Aussi dans le réseau MediaVision, et donc il va passer aussi sur des chaînes de télévision suivantes, donc c'est quand même assez diversifié. TF1, les chaînes de France Télévisions, Canal+, et M6. Donc ça, c'est dans un premier temps, ce sera au courant du mois d'octobre. Donc, ben, pour une fois, on va vous dire de regarder la télévision. C'est pas notre habitude, mais pourquoi pas. Et dans un deuxième temps, alors on vous en reparlera parce que les groupes d'Amnesty, c'est pour ça qu'on a reçu le mail, vont être sollicités, mais pour l'instant, on ne sait pas encore très bien sous quelle forme, pour participer à cette campagne de promotion. Voilà. Donc, ça s'appelle le goût de la victoire. Et c'est vrai que si on s'engage et si on milite pour Amnesty, c'est surtout pour remporter ces victoires. Mais je crois que donc qu'il y avait Mina qui voulait vous parler, effectivement, d'une déclaration qui n'est pas si éloignée que ça de ce que je viens de dire.
Ma déclaration, la déclaration, ni un tube de France Gall, ni un tube de Jennifer, c'est un festival de vidéos. À l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amnesty International France lance ce festival. Ma déclaration. Pour cet anniversaire, vous pouvez participer à partir du 10 septembre jusqu'au 10 décembre en allant sur le site www.madéclarationamnesty.fr et y déposer une vidéo de 70 secondes. Alors, les règles pour faire cette vidéo, pour la déposer, on fait appel à tout le monde, à votre personnalité, à votre regard, à votre interprétation et invitons chacun et chacune à nous livrer sa manière de voir les droits humains aujourd'hui. Pour participer, ni pression, ni contrainte technique. Notre appel à film est ouvert à toutes et à tous, petits ou grands, débutants ou expérimentés, rêveurs ou réalistes, amateurs de comédie ou de tragédie. Une seule limite à votre créativité, les 70 secondes. L'adresse www.madéclaration.amnesty.fr. J'avais oublié un point.
Et donc vous avez entendu Mina taper sur la table parce qu'elle cherchait sa ligne. Donc voilà, donc tout à fait. Bon, si vous voulez des informations complémentaires, parce que vous n'êtes peut-être pas très au courant de ce que ça représente, le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, pardon, c'est ce qu'on dit maintenant. Donc vous, à ce moment-là, vous nous contactez si vous voulez des informations complémentaires par rapport à ce que vient de dire Mina. Vous nous envoyez un petit mail à amnesty.evreux@gmail.com et on se fera un plaisir de vous répondre pour vous expliquer ce qu'Amnesty International souhaite dans cette présentation, effectivement, et ce témoignage, qu'est-ce que vous évoque pour vous les 70 ans de cette déclaration universelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, amnesty.evreux@gmail.com. On va peut-être quitter ce qui se passe localement en France pour aller dans un pays européen qui n'est pas très loin et qui s'appelle la Hongrie.
Oui, alors en Hongrie, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais des fois ça fout les miquettes ce qui s'y passe en ce moment. On en a parlé quand même à plusieurs reprises depuis un ou deux ans. C'est un pays qui a quand même un passé avec des périodes, on va dire, brunes, grises, qui ne sont pas toujours très reluisantes, qui s'étaient un petit peu ouvert et puis qui, là, avec l'arrivée des migrants, se referme de plus en plus, met des fils barbelés pour empêcher les gens de venir. Et puis aussi, y a eu une vague populiste qui est passé en avril 2018. Les élections ont fait que c'est un parti quand même qu'on qualifierait plutôt d'extrême droite qui est au pouvoir en ce moment en Hongrie et qui met en place des lois qui étaient déjà un petit peu préparées déjà depuis l'année dernière et qui sont quand même très inquiétantes. Donc le Parlement européen condamne le gouvernement hongrois. Donc ça, c'est un article qui est paru au niveau d'Amnesty International France, qui a été publié le 13 septembre 2018, et qui nous dit que les eurodéputés se sont prononcés pour la défense de la population hongroise. Donc un vote historique en faveur des droits humains. Une écrasante majorité des eurodéputés ont aujourd'hui condamné donc les politiques rétrogrades du gouvernement hongrois, qui éloigne la Hongrie des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne. Et en fait, en Hongrie, ce qui fait réagir les eurodéputés, c'est que la société civile est en danger. Donc il y a un nouveau paquet de lois qui vise à limiter encore davantage l'action des organisations non gouvernementales de défense des droits humains dans ce pays. Partout en Europe et dans le monde, des lois se multiplient pour limiter la liberté d'association, en stigmatisant celles et ceux qui se battent de manière pacifique pour un monde plus juste. en Hongrie, la loi de juin 2017 sur la transparence des organisations financées par des capitaux étrangers annonçait déjà le ton. C'est-à-dire que les organisations recevant des financements de pays tiers devaient s'enregistrer auprès des pouvoirs publics et afficher cette mention sur toutes leurs publications. Moins d'un an après son adoption, un nouveau paquet de lois pourrait être adopté, disposant que toutes les organisations soutenant l'immigration devront obtenir un avis favorable des services de sécurité et une autorisation gouvernementale pour continuer à mener leur action. Cette disposition est d'autant plus ubuesque que la liste sera déterminée par le gouvernement lui-même. Concrètement, cela signifie que des associations telles que Amnesty International Hongrie, que l'Union pour les libertés civiles et le comité Helsinki pourraient se voir obligées de fermer sur le sol hongrois. Et donc, le Parlement européen, bon, c'est pas toujours ma tasse de thé, mais là, ils ont quand même pris des décisions en faveur de la protection des valeurs européennes et ils ont voté en faveur du déclenchement de la procédure de l'article 7.1 du traité de l'Union européenne. Et cet article permet à l'Union européenne de promouvoir et protéger ses principes fondateurs, notamment l'état de droit et les libertés et les droits fondamentaux. Donc la Hongrie fait incontestablement partie de l'Union européenne, mais les valeurs fondatrices de l'Union européenne ne sont pas négociables. Donc le rapport qui a été soumis au vote des eurodéputés le 12 septembre dernier énumère de nombreux motifs de préoccupation concernant la Hongrie. Il porte notamment sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté d'expression, la liberté d'association ainsi que le droit à l'égalité de traitement, les droits des personnes appartenant à des minorités, notamment les Roms et les Juifs, les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, et encore bien d'autres. Donc, les eurodéputés ont pris position en faveur de ce qui est juste et menacent de sanctions la Hongrie en disant qu'ils pourraient être amenés à suspendre les droits de vote de la Hongrie au Conseil de l'Europe.
Oui, tout à fait. Quelques informations complémentaires par rapport à ce que vous avez dit, Carlise.
Effectivement. J'ai pas dit le nom du président parce que j'arrive pas à le dire.
Orban.
Voilà.
Il s'appelle Viktor Orban. Oui, non, mais... Si on peut le dire, on peut le dire.
Je veux pas.
Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Il fait pas partie des gens pour lesquels on est de la sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais effectivement, son parti est en place au niveau du gouvernement depuis 2010, donc il a été réélu cette année. On peut se poser quelques questions sur l'honnêteté du vote qui a eu lieu, mais enfin bon, faute de preuves, on n'ira pas plus loin. Mais toujours est-il que donc ils ont effectivement, comme disait Claire-Lise, mis des clôtures, enfin des barrières à leurs frontières pour empêcher les migrants de passer, parce que c'est leur obsession. Enfin, ça fait partie d'une de leurs grosses obsessions, effectivement, les migrants et les réfugiés. C'est toujours sur l'optique, effectivement, on va être envahi, on va être colonisé, on va être Ils défendent des notions de... Ils veulent bien accueillir des réfugiés à ma condition que ce soit des chrétiens. C'est ce qu'il a dit, effectivement. C'est des réfugiés chrétiens. Bon, effectivement, faire un tri par rapport à la religion des gens, c'est contraire aux droits fondamentaux. C'est une évidence. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... Bon, les menaces, quand vous parlez des menaces par rapport à Amnesty Hongrie, il n'y a pas que eux, bien évidemment. Enfin bon, eux, ce sont nos amis les plus proches, donc on les connaît. Et ils étaient de passage à Paris, j'ai dû vous en parler dans la dernière émission, mais pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, ils étaient de passage à Paris, la présidente, il y a quelques semaines, au début du mois de septembre, et elle précisait que la présidente d'Amnesty Hongrie, elle m'excusera, j'ai pas retenu son nom, mais elle précisait que le matin de son départ de Budapest, elle avait reçu des menaces de mort, une nouvelle fois, c'est pas la première fois, en disant, en gros, c'était « on va vous faire brûler, vous et vos migrants ». Voilà. Donc, c'est un niveau de dialogue qui est tout à fait caractéristique. Hein. Les gens qui s'opposent, les gens de la sphère de M. Orban, s'adressent aux autres en disant « on va vous faire brûler ». Voilà. Nous, on parle aux gens. On leur dit pas qu'on va les faire brûler, quoi. On n'habite pas vraiment sur la même planète. Hein. Et donc, enfin, tout ça, ça nous rappelle des choses qui sont tout à fait, dans l'histoire récente européenne, hein, tout à fait sensibles, tout à fait importantes. Et Claire-Lise, vous disiez aussi que, si j'ai bien compris, qu'il y avait aussi des menaces par rapport aux minorités juives, par exemple, en Hongrie.
Minorités juives, minorités roms.
Oui, c'est ça.
Pourtant, les roms, ils sont un petit peu chrétiens, mais...
Oui, oui.
Voilà.
Mais
non,
oui, mais ils sont roms. Hein, donc,
ils sont roms, c'est ça. Voilà. Et donc, de toute façon, c'est quand même très ancien, mais les pogroms, ils viennent un petit peu de ces pays-là.
Oui, hein, oui, tout à fait. Enfin, ça aussi, aussi les menaces vis-à-vis des juifs et l'antisémitisme, ça rappelle aussi des choses quand même pas si anciennes, hein, je veux dire, dans l'histoire.
Quand je t'ai parlé de la couleur brune.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Parce que vous savez que les partis d'extrême droite et les partis fascistes qui adoptent cette couleur-là, effectivement, on est bien d'accord. Et puis, dernière information qui n'est pas une information d'Amnesty, mais qui est aussi importante à savoir, c'est que je relisais là tout à l'heure dans un article d'un autre journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique, pour ne pas le citer. Il y a tout un dossier sur les migrations en Europe qui ont été publiées là juste avant l'été, au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus, et qui indique que c'est marrant parce que ces gens-là, comme Viktor Orban, ne parlent jamais de ça, parce qu'effectivement, ce serait tellement gênant pour eux de parler de ça qu'effectivement, ils passent ça sous le silence. C'est de dire que, par exemple, la population hongroise, depuis 2010, entre 2010 et 2018, les Hongrois pure souche, ceux que M. Orban aime bien, quoi, les bons chrétiens, etc., etc., la population interne a baissé de 1 million. Et ils sont déjà que 9 millions, enfin, entre parenthèses, mais la population a baissé de 1 million. Parce que, comme ils font partie de l'Union européenne, il y a ce nombre de Hongrois qui ont immigré dans d'autres pays pour des questions de travail, pour des questions qui sont tout à fait honorables, hein, tout à fait. Ils profitent des accords européens, grand bien leur fasse. Mais effectivement, la population interne a baissé de 1 million. Ce qui veut dire que si, effectivement, ils continuent à fermer les frontières et que la population interne continue, en fait, à majoritairement émigrer de Hongrie, eh bien, ils vont se retrouver dans une situation démographique, et c'est déjà le cas, catastrophique. Donc, pour des responsables politiques qui sont censés prévoir, c'est ce qu'on dit, hein, gouverner, c'est prévoir, c'est quand même une vue, déjà à très court terme, mais une vue complètement stupide. Mais ça, effectivement, ils n'en parlent jamais, parce que ça va contre leur grande déclaration et contre leur grande diatribe anti-immigration. Donc, ces gens-là sont alliés... Le non-respect des droits humains est une belle dose d'imbécilité, quand même. Faut appeler un chat un chat. Donc voilà. Donc on continuera à vous en parler de la Hongrie, mais là c'est important, comme disait Clarlis, que l'Europe a pris une position quand même assez ferme vis-à-vis d'eux. Cette position pouvant permettre aussi, à terme, de leur fermer le robinet financier. Je terminerai là-dessus. Parce que ce que oublie aussi de dire M. Orban et son gouvernement, que s'ils crachent sur l'Europe maintenant, parce que soi-disant l'Europe leur impose des migrants dont ils ne veulent pas, ils ont quand même bien profité d'un certain nombre de milliards de l'Union européenne, ce qui est tout à fait normal, il y a un budget commun, et que ça, par contre, ils les ont acceptés, et que ça a participé à un grand développement économique du pays. Donc, effectivement, prendre l'argent et après cracher sur les gens qui donnent l'argent, c'est aussi un comportement qui est, on ne peut plus contestable, pour rester poli. Voilà. On va peut-être, je ne sais pas, Clarisse, tu voulais peut-être ajouter des choses, non ?
Sur la Hongrie ? Non, pas pour l'instant, pas précisément.
T'as plus envie de parler de Monsieur Orban, dont le nom t'écorche la bouche, c'est ça ? On va peut-être passer un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après.
Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse, pour y dormir faut se pousser. Les gosses jouent, mais le ballon c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, 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 on pourra se parler, camarade, bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarade, bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades, bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade, bientôt, bientôt, je t'attends, camarade.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Lévreux pour son émission sur les droits humains. On vient d'entendre, pas d'entendre, d'entendre Claude Nougaro, Bidonville. C'est un morceau auquel j'ai pensé. Je pense que c'est la première fois qu'on écoute Claude Nougaro, mais il a fait de très beaux textes. C'est un petit morceau qui est en rapport avec ce qui va suivre, effectivement, où on va vous reparler de migrants et de réfugiés. Et donc les bidonvilles et les conditions de vie déplorables des gens, ce n'est pas entièrement étranger au fait que les gens cherchent de meilleures vies ailleurs. Une petite bonne nouvelle pour commencer quand même juste avant la séquence migrants et réfugiés. Une bonne nouvelle, si on va envoyer les auditeurs et les auditrices à réécouter l'émission qu'on avait fait le 13 mars, je vais aller vérifier pour être précis, le 13 mars dernier, où je vous parlais d'une loi qui était passée en Grande-Bretagne, qui permettait aux services secrets, toujours dans l'optique de la lutte contre le terrorisme, qui aboutit aussi par exemple en France à l'état d'urgence, qui a duré si longtemps, et beaucoup trop longtemps, et qui permet à cette loi, donc en Grande-Bretagne, de surveiller l'intégralité des mails, des communications internet, des communications téléphoniques, etc. Surtout si vous aviez le malheur pour vous renseigner de prononcer des mots comme terrorisme ou état d'urgence. Donc là, vous passiez directement pour eux dans le cas des gens suspects. Donc il y a un nombre d'ONG qui ont porté plainte, dont Amnesty Grande-Bretagne, qui ont porté plainte contre cette loi. Et la Cour européenne des droits de l'homme leur a donné raison. Donc, elle a prié la Grande-Bretagne très fermement de retirer effectivement ces mesures de surveillance extrême de la population en Grande-Bretagne. C'est pas au bout du monde, hein, c'est juste à côté de chez nous. Donc, Amnesty dit la chose suivante, je vais vous dire juste un extrait du communiqué. Il s'agit d'une immense victoire pour les droits et les libertés des gens au Royaume-Uni. Cela montre qu'il y a et qu'il doit y avoir une limite en ce qui concerne la surveillance que les États peuvent exercer sur leurs citoyens. Les services de police et de renseignement ont besoin de pouvoir exercer une surveillance discrète pour déjouer les menaces auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Mais la Cour a jugé que ces menaces ne justifiaient pas le fait d'espionner chaque citoyen sans que soient mises en place des protections nécessaires. Voilà, il confirme que ce n'est pas parce qu'il est techniquement possible d'intercepter toutes vos communications personnelles que cela est légal. Donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu rassurant. Alors évidemment, la Grande-Bretagne a le droit de faire appel de cette décision. Donc on attend la suite. Mais enfin, ce premier jugement, effectivement, et peut être aussi, même par rapport à ce qui se passe chez nous, une première étape pour remettre en cause des lois liberticides. Voilà. On parle des migrants et des réfugiés.
Oui, on va parler surtout de ce qu'on a cette semaine. En fait, on vous avait parlé il y a 15 jours, on vous avait fait un petit retour sur ce qui se passait au niveau local et sur le pique-nique solidaire qui avait eu lieu le 1er septembre au Miroir d'eau à Évreux, sachant que six associations s'étaient unies face au constat qu'il y avait de plus en plus de familles, de femmes, d'enfants, d'hommes à la rue, parfois des femmes avec des enfants très jeunes, en bas âge, parfois des personnes handicapées ou âgées, et que c'était intolérable de voir autant de personnes. Hein. On avait quand même je ne sais plus, 34 adultes et 39 enfants, enfin quelque chose comme ça, on avait comptabilisé, sans compter tous ceux qu'on ne connaît pas. Hein. Et donc, il y avait eu un pique-nique solidaire, à l'appel de la Ligue des droits de l'homme, des réseaux d'éducation sans frontières, du collectif étranger-français pour l'égalité des droits, donc le CFED d'Asti d'Evreux, des Restos du Cœur, et c'était la première fois qu'on faisait une action avec les gens des Restos du Cœur, et donc eux, ils sont en première ligne aussi sur le terrain, et c'est pas pour rien qu'ils se sont joints à nous. Et il y avait Amnesty, et il y avait aussi... Alors,
un toit sous la main, je sais pas si
un toit sous la main, voilà. Donc ça, c'est des... En fait, c'est une association qui a été créée par Vincent Breuil, qui fait partie des réseaux d'éducation France sans frontières, suite au problème de logement de nombreuses familles avec enfants, justement des familles qui ne sont pas régularisées et qui, quand on appelle le 115, il n'y a jamais de place pour eux. Donc, suite à ce pique-nique solidaire, on avait fait un communiqué commun où Didier a utilisé sa belle plume. Voilà, chacun des représentants des 6 associations ont aidé à rédiger un communiqué. Et en fait, on a envoyé ce communiqué à monsieur le préfet en lui demandant une audience. C'est ça. Audience qui nous a été accordée le 21 septembre à 11h. Donc, en fait, on était 5 représentants les 6 associations qui avaient demandé le rendez-vous. Tu prends le relais, tu
oui,
prends pas
je
le
prends le relais, bien sûr. Non, mais je t'écoutais. Ça me donne attentif. Juste pour corriger aussi, il y a la MDH qui fait partie du collectif.
Je l'ai dit.
Ah, tu l'as dit.
Je l'ai dit en premier, monsieur.
Bon, alors excusez-moi de vous rappeler. Il y a la LDH. Hélène va être contente si on la rappelle deux fois.
Voilà.
Donc, oui, effectivement, on a eu cette entrevue, donc soyons sérieux, mais on a eu cette entrevue, effectivement, à la préfecture, qui a permis, effectivement, un échange pendant quand même une heure et demie hein, avec monsieur le préfet, le secrétaire général de la préfecture.
Il y avait monsieur le préfet, donc Thierry Coudert, parce que c'est quand ça. On écrit, il faut mettre son nom, parce que sinon, il ne voit pas toujours les courriers. Donc, il faut mettre son nom d'abord et préfet de l'heure après. Il y avait monsieur Baron, qui est le responsable du bureau des étrangers. Migrants,
c'est ça.
Voilà, à la préfecture. Il y avait monsieur Guillaume Pin qui est responsable de la direction départementale de la cohésion sociale.
C'est ça. Et le secrétaire général de la préfecture, dont j'ai oublié le nom, je ne me souviens plus, enfin, qui accompagnait monsieur le préfet, qui est le préfet
ouais, en gros. On n'a pas retenu son nom de ce monsieur-là.
Monsieur Moncou, un nom comme ça.
Enfin, voilà. Bref, c'est pareil. Et puis il y avait un petit stagiaire de l'ENA qui prenait des notes.
Oui.
Voilà.
Donc, ça nous a permis, effectivement, de nous exprimer. Donc, on avait préparé un peu l'entrevue. Donc, bon, il y a Vincent qui a dressé un tableau général de la situation en disant que notre but, effectivement, par rapport à ce découlant de ce pique-nique solidaire du 1er septembre et tout ce qui en a suivi, c'était aussi pour essayer de faire avancer les choses au niveau de ce qui fonctionne pas au niveau de la préfecture, des aberrations du système, et essayer de réfléchir à des solutions de façon positive, à des solutions plus humaines, plus effectivement correctes vis-à-vis du respect des droits fondamentaux des gens, et de façon à ce que des choses qui nous semblent nous tout à fait inacceptables n'arrivent plus, ou du moins arrivent moins souvent. Donc on a eu un échange par rapport à tout ça. Donc il y a différents points qui ont été abordés. Bon, je ne les ai pas tous en tête, mais je sais qu'on a... Tu as parlé, par exemple, des problèmes des femmes qui étaient à la rue.
Oui.
Et qui sont directement menacées, y compris par des phénomènes de violence, de viol, enfin, etc.
On a eu une discussion intéressante avec monsieur le préfet et les gens qui étaient avec lui sur la notion de vulnérabilité. Parce qu'en fait, pour moi, une femme à la rue... ou un enfant de moins de 3 ans, c'est quand même des personnes vulnérables. Je sais pas, moi, quand on met De Vienne et son bébé de 4 mois à la rue, pour moi, c'est des personnes vulnérables. Eh bien, la notion de vulnérabilité au niveau des textes, comment dire, elle n'est pas lue de la même, perçue de la même façon. Et au niveau de la préfecture, et notamment le monsieur Guillaume Pin de la direction départementale de la cohésion sociale, nous a dit que non. Un enfant de 3 ans, c'est pas forcément quelqu'un de vulnérable. Ça dépend de la situation, de sa situation.
Voilà.
Mais voilà, s'il n'est pas malade, s'il n'a pas une tumeur au cerveau, s'il n'est pas handicapé, il n'est pas forcément vulnérable. Enfin, c'est ce qu'on en a vaguement compris. À un moment donné, parce que le stagiaire de l'ENA, il prenait des notes, moi aussi, la première phrase du préfet, dans la première phrase, il a dit « on fait ça sans affect ». Voilà. Ben oui. Bon, ça a mis le ton. Après, il y a quand même eu une écoute. Il a quand même été très détendu et il a accepté, parce qu'au début, c'était une entrevue peut-être qui était prévue pour une heure, on y restait presque deux heures quand même.
Oui, oui.
Et il y a quand même eu des échanges constructifs.
À la fin, il regardait leur montre d'ailleurs, ouais. J'ai remarqué. Il
avait oui, parce qu'on ne les lâchait pas, on avait toujours autre chose à rappeler.
Puis il devait avoir envie d'aller déjeuner.
Mais il y a quand même eu un échange constructif. Mais c'est vrai que quand on leur a parlé, par exemple, des personnes demandeuses d'asile, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit que parfois, ils attendent. Maintenant, ils attendent entre 15 jours et 3 semaines, mais à un moment donné, ils attendaient pratiquement, ils pouvaient attendre 2 mois à la rue, parce que quand ils arrivent en France et qu'ils vont se déclarer comme demandeurs d'asile à France Terre d'Asile, à la PADA, donc la permanence d'accueil et pour les demandeurs d'asile, ils sont enregistrés. Et ils sont même enregistrés. Et donc, Daniel Granger du CFEDASTI avait amené le document parce que c'est un document où ils sont enregistrés à France Terre d'Asile avec le logo de la préfecture en tant que demandeur d'asile. Et c'est signé et à la date de, par exemple, du 4 septembre. Bon, à la date du 4 septembre, ils peuvent être enregistrés comme demandeurs d'asile. Mais pour la direction départementale de la cohésion sociale et pour les organismes de la préfecture, déjà, c'est un devoir de l'État et pas du département de loger les demandeurs d'asile, donc ils se renvoient toujours la baballe. Et après, ils nous disent aussi, mais de toute façon, on ne les considère comme demandeurs d'asile que quand ils sont passés au guichet unique de la préfecture de Rouen. C'est-à-dire que, et là, en ce moment, ils ont raccourci les délais, mais à un moment donné, ils attendaient jusqu'à la famille Matangui, dont je te parlais tout à l'heure, tu sais, avec la petite Péniel, oui. La petite fille handicapée, mmh. Ils ont attendu presque 4 mois avant d'être enregistré. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des articles en octobre 2016 sur les actions de RESF et du CFED où on montrait plusieurs familles qui n'étaient pas hébergées, dont il y avait le papa, M. Matangui, qui tenait sa petite fille handicapée, elle avait la maladie des os de verre. Ils sont restés 4 mois à la rue. Donc c'était pas rien à l'époque. Maintenant, ça s'est un petit peu raccourci les délais, quoique il y a encore des personnes qui attendent plus d'un mois avant de passer au guichet unique. Et ils nous ont soutenu que non, c'était le passage au guichet unique qui faisait foi et qui faisait loi. Et alors, vas-y pour le rebondissement, sors-le ton article de la CIMAD.
Oui, alors effectivement, l'article de la CIMAD dont on parle clairement, on l'a reçu, moi je l'ai trouvé effectivement le lendemain de rendez-vous avec le préfet, c'est dommage, on ne l'avait pas ce jour-là.
Ouais.
Mais donc on n'a pas pu lui renvoyer dans les dents, entre guillemets. Mais effectivement, la CIMAD, alors c'est la CIMAD à Nantes, la CIMAD c'est une association qui s'occupe aussi des droits des réfugiés, j'ai plus le nom du sigle en tête, enfin la signification du sigle en tête, mais effectivement la CIMAD a saisi le tribunal administratif de Nantes, parce que la ville...
Ils ont fait un référé liberté.
C'est ça.
Référé liberté.
C'est ça. Parce que, en fait, la ville de Nantes, il y avait 500 et quelques personnes, je sais plus quoi, 698, pardon, personnes, qui vivaient dans un logement précaire dans un square dans Nantes. Et la CIMAD prétendait que c'était du ressort de la ville de Nantes d'assurer leur hébergement. Chose que la ville refusait en disant non, ce n'est pas à nous, c'est à l'État, ou etc. Et ces gens-là ne sont pas tous en situation régulière, donc nous n'avons pas besoin de leur offrir un hébergement. C'est la même chose que ce que nous disait le préfet quand on l'a rencontré. Or, le tribunal administratif a rendu le jugement donc la semaine dernière, et il dit la chose suivante. Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge l'ensemble des personnes migrantes présentes actuellement sur le square d'Aviers à Nantes, et sur les espaces périphériques à ce square, quelle que soit leur situation administrative au regard du droit d'asile, dès leur installation sur le site que la commune de Nantes s'est expressément engagée à mettre, sans délai, à la disposition de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la mise à l'abri de ces personnes, et ce, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du présent dispositif. Donc le tribunal administratif dit bien dans ce cas-là, et donc ça peut se généraliser bien évidemment, que l'obligation pour l'État d'offrir, de l'État aux préfectures, etc., aux différentes structures administratives et officielles, d'offrir un abri aux personnes en situation de migrantes ou de réfugiés, n'est pas soumis à une situation administrative conforme au droit d'asile, et que c'est un bien d'emblée, enfin c'est un bien humain fondamental. C'est ce que moi j'ai dit derrière Monsieur le Préfet hein, dans l'entrevue, effectivement que ça faisait partie
des droits humains fondamentaux régis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce à quoi il a répondu en souriant que lui, il était chargé d'appliquer le droit français, mais qu'il ne pouvait pas se pencher sur le droit international.
Eh bien, en droit français, quand il y a un tribunal qui émet comme ça un jugement, ça s'appelle de la jurisprudence. C'est Donc ça. Après, on peut s'en saisir et on peut refaire la même chose auprès du tribunal administratif de Rouen et leur remettre dans les dents parce qu'ils sont obligés de l'appliquer partout où on le demandera.
C'est ça. Donc on ne manquera pas effectivement de lui faire savoir ce jugement. Dans l'entrevue, il y a eu d'autres questions qui ont été posées, comme les personnes dublinées, par exemple, effectivement, qui se retrouvent aussi dans des situations précaires. Les personnes dublinées, c'est des gens qui sont renvoyés vers l'État où elles ont, entre guillemets, mis la première fois le pied en arrivant dans l'Union européenne, qui demande l'asile. Et effectivement, ce sont des accords que nous, on vous a déjà parlé, que nous, on dénonce. Parce qu'en fait, c'est ramener des gens dans des pays comme l'Italie. Quand on sait ce qui se passe maintenant en Italie avec le gouvernement un peu de tendance brunâtre qui est arrivé au pouvoir, donc il est évident qu'en Italie, renvoyer les gens en Italie, c'est faire atteinte à leurs droits fondamentaux, parce qu'on sait bien ce qui va s'y passer. Ils risquent fort d'être expulsés manu militari. Il y a aussi le cas, par exemple, de gens qui ont transité ou qui ont un visa via le Portugal, et on sait qu'ils viennent d'Angola, et on sait que le Portugal, ancien pays colonisateur de l'Angola, a des accords avec ce pays pour renvoyer là aussi les ressortissants angolais manu militari vers leur pays d'origine, etc., etc. Donc, effectivement, ce sont des choses que l'on a contestées. Bon, il y a eu d'autres points, de toute façon, qui ont été établis.
C'est-à-dire qu'ils ont dit que, effectivement, sur des situations de personnes qui ont été ensuite, quand elles ont été déboutées de l'asile et qui n'arrivent pas à obtenir un titre de séjour, il y a parfois des dossiers qui sont incompréhensibles. Ils pourraient avoir tout pour avoir le titre de séjour et on refuse de le leur donner, soit pour un problème d'hébergement, soit... Enfin, il y a parfois des dossiers qui sont incompréhensibles. Donc le préfet a dit qu'il ne refusait pas d'étudier certains dossiers, qu'il avait déjà eu des mesures au bénéfice quand, par exemple, RESF écrivait sur la situation d'enfants avec de très bons résultats scolaires, d'enfants ou d'adolescents, pour essayer d'obtenir à l'arraché leur régularisation. Là, ils se sont engagés quand même à relire un certain nombre de dossiers pour lesquels on insistait, de revoir un peu certaines situations et de faire le point avec nous dans 3 mois.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Donc, effectivement, il y a quand même eu des avancées positives avec les instances préfectorales et avec monsieur le préfet, comme vous disiez, Claire-Lise. Il y a aussi ils ont évoqué la possibilité de. Alors, il faudra qu'on les tanne pour savoir si c'est fait, c'est clair, parce qu'entre la parole et la réalité, de voir pour de réhabiliter un parc de logements disponibles pour effectivement agrandir les capacités d'accueil des gens en situation de migrants ou de réfugiés. Ça, ils se sont engagés à faire un travail là-dessus. Effectivement, de prendre aussi, alors ça c'est une mesure interne au niveau de la préfecture, donc ça devrait leur être relativement simple, de prendre des mesures internes pour qu'il n'y ait plus de refus de communiquer les dossiers indispensables à remplir pour les personnes qui arrivent.
C'est-à-dire que quand les gens arrivent, ils ont des refus de guichet. On ne veut pas leur donner les formulaires et voilà, normalement c'est un délit ça, ils n'ont pas le droit.
Non, parce qu'après on leur dit effectivement vous êtes en situation irrégulière, mais si on ne leur permet pas de régulariser la situation, c'est un cercle vicieux de mauvaise foi. Alors, donc, effectivement, monsieur le préfet s'est engagé à faire un peu le ménage chez lui.
Alors, il s'est engagé, mais ce que j'ai appris après, il faut quand même le savoir, c'est que monsieur le préfet va bientôt quitter la région. Donc, ça serait bien qu'on arrive à obtenir des choses avant qu'il s'en aille, voyez-vous.
Ça fait rien. S'il y a un nouveau qui arrive, on lui fera savoir les résultats de l'entrevue et les accords qu'on avait avec lui.
Parce que lui était plus détendu, allait un petit peu plus dans notre sens, mais on sentait bien que les deux autres personnes qui étaient à côté de lui, monsieur Baron et Monsieur Pain, ils étaient un petit peu plus dans leur texte de loi et
dans leur logique.
Bon, ceci dit, la jeune femme pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on revoie la situation parce que son fils avait eu un kyste cérébral et je vous avais dit sur l'antenne, elle s'était déplacée 3 ou 4 fois à la préfecture et on lui avait dit de revenir avec l'enfant malade. Elle était revenue, on lui avait dit de revenir après parce qu'il fallait étudier le dossier. Quand elle était revenue, elle s'était pris une obligation à quitter le territoire français. Ça, c'est pas normal. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'il revoie son dossier et ils l'ont appelé par téléphone en lui demandant de passer à la préfecture avant la fin de la semaine pour revoir sa situation. Donc, Voilà. Je ne sais pas si après ils vont la régulariser.
Oui,
mais
enfin, ça veut dire quand même qu'ils, voilà, qu'ils sont sentis obligés d'eux. Ce qui ne serait sans doute pas arrivé si on n'avait pas fait pression, on n'avait pas cherché à les rencontrer. Bon, on pourra en parler pendant des heures, hein, de cette entrevue avec monsieur le préfet, parce qu'effectivement, comme disait Claire-Lise, l'administration se retranche toujours derrière les textes. Ce qui a fait dire à Thierry, hein, qui représentait RESF, une remarque très juste dans la discussion en disant les textes, c'est une chose, mais nous, on se bat tous les jours avec des personnes dont les droits sont remis en cause. On se bat avec l'humain et l'humanitaire, et on n'a pas la même approche par rapport à ça, puisque réagir par rapport à un texte, c'est facile. Accompagner une personne qui est en situation extrêmement dramatique, c'est tout à fait une autre paire de manches, c'est sûr. Donc voilà. Donc bon, malgré tout, je pense qu'au bout de la discussion, il y a quand même des choses qui sont passées. Et bon, comme tu disais, il faudra de toute façon faire preuve de constance par rapport à la préfecture, et surtout rappeler à monsieur le préfet, même à son successeur ou à sa successrice, si c'est plus lui, qu'on a un engagement pour refaire le point avec la préfecture, à date régulière. Il nous en parlait de 3 mois, mais on réclamera effectivement que ce soit régulier.
3 mois, mais vous savez, la période de mise à l'abri, normalement, c'est entre le 15 octobre et le 1er novembre, et à mon avis, on va déjà voir qu'il y aura à nouveau des gens pas hébergés, oui. avec les périodes de froid, et on va ressortir les griffes.
Oui. Mais bon, c'est un peu comme on disait, hein, au début de l'émission, là, on parlait du goût de la victoire, cette campagne d'Amnesty, même si on ne peut pas qualifier cette entrevue avec monsieur le préfet de victoire, ce serait extrêmement prétentieux de notre part, c'est quand même une avancée pour la défense des droits fondamentaux de ces gens, qui, rappelons-le, sont au moins une quarantaine de personnes et autant d'enfants qui sont potentiellement à la rue à l'heure actuelle. Donc voilà, y compris des bébés, enfin, etc., des gens malades, enfin bon, des choses qui sont tout à fait intolérables et inimaginables. Juste un petit mot pour terminer ce petit chapitre sur les migrants. C'est pas local, mais bon, ça fait partie des choses importantes aussi. Il y a le bateau dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle l'Aquarius, qui est le dernier bateau humanitaire de SOS Méditerranée, de Médecins Sans Frontières, qui continue à recueillir des gens en Méditerranée. Eh bien, les autorités européennes font pression pour lui retirer son pavillon, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus le droit de naviguer. Il a fait une demande auprès d'un pays, je ne sais plus lequel, le Panama, je crois. Et pour l'instant, ça paraît très compliqué pour qu'il puisse utiliser un pavillon panaméen, parce qu'on pense que les autorités européennes font pression. Et donc ça, c'est tout à fait ce que j'avais pu dire quand on a fait le débat au cinéma la semaine dernière avec le film « L'ordre des choses ». C'est qu'en fait, comme a dit un journaliste, il n'y aura plus de morts en Méditerranée le jour où il n'y aura plus personne pour voir les gens qui se noient. Donc voilà, c'est un peu la politique qui est prise par l'Union européenne. Donc on continue à avancer à reculons. Et c'est absolument ignoble d'imaginer que l'Union européenne serait partie prenante d'une machination pour empêcher ce bateau-là de naviguer. Monsieur Macron, président de la France, membre de l'Union européenne, si vous avez ça dans la tête, eh bien, c'est vraiment pas quelque chose de très propre. Voilà. Donc c'était un petit peu... Ça me fout les miquettes, comme tu disais, Claire-Lise, c'était un peu ça. Voilà, pour terminer. Donc on restera vigilant aussi par rapport à cette histoire d'Aquarius, de bateau, parce qu'encore une fois, le travail qu'ils font reste fondamentalement important. Et là, ils ont une cinquantaine de personnes dont aucun pays ne veut pour l'instant. La France se demande comment on peut accueillir 58 réfugiés. Et j'ai vu un communiqué là sur Internet aujourd'hui d'un groupement dans les Alpes-Maritimes, je crois, qui disait en réponse, en disant « Nous, on accueille 58 personnes en 24 heures ». Donc c'est juste pour montrer à quel point l'État français est hypocrite en disant où est-ce qu'on va bien les mettre ces 58 personnes. Donc voilà, on se réécoute un petit peu de musique et puis on passera à la suite de l'émission.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger là, sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. Je lâche un peu de lest comme le feraient les chats avant de donner ma langue. cette fois ta douce peau. Si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac. Et si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi. Pour preuve de mon ardeur, j'écrirai au stylo d'orgea sur la nappe à carreaux. Je n'en mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux phrases et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots, mes mots, mes mots.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux, pour la dernière partie de son émission sur les droits humains. On vient d'entendre Camille, c'est son dernier disque, je crois, et le morceau s'appelle « Je ne mâche pas mes mots ». Et je trouve que pour des, dans le cadre d'une émission d'Amnesty, « Je ne mâche pas mes mots », c'était quand même tout à fait prémonitoire. Voilà. Une bonne nouvelle. On vous rappelle qu'on a toujours des bonnes nouvelles à vous donner, c'est important, surtout quand on milite. On a soutenu une personne, un dessinateur humoristique et contestataire, dirons-nous, qui s'appelle Zunar, c'est pas son prénom, c'est son surnom, mais son nom est un peu compliqué, qui est malaisien. On l'a soutenu en 2015 parce qu'il était menacé de poursuites pénales de par les critiques qu'il avait fait vis-à-vis du gouvernement malaisien. Donc on l'a malais, on dit malais, hein, pas malaisien, on dit malais. Donc on l'avait soutenu en 2015 pour la campagne 10 jours pour signer, on avait, en demandant le retrait des poursuites qui étaient envisagées à son encontre. On est 3 ans après, ça prouve bien qu'il ne faut jamais lâcher, et Amnesty on ne lâche jamais. On a appris effectivement cet été que les poursuites contre Zunar étaient abandonnées par les autorités malaises. Malais ou malaise, enfin, etc. Donc, ce qui fait dire à Amnesty, si cet acquittement est une mesure positive, le nouveau gouvernement doit saisir cette occasion pour rentrer dans une nouvelle ère pour les droits humains, en rétablissant pleinement la liberté d'expression et en abolissant la loi de 1948 là-bas, relative à la sédition, utilisée à répétition pour cibler les voix dissidentes. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on a soutenu, on est très content. Visiblement, maintenant, il peut travailler tranquille. Voilà. Mina ?
Oui, un conseil de lecture ?
Oui.
Suite à la bonne nouvelle. C'est un roman graphique en coédition d'Argo et Amnesty International de Jérôme Tubiana et Alexandre Franc, Guantanamo Kid, l'histoire vraie de Mohamed El Guarani. Et donc, on va suivre tout son parcours, 8 ans à Guantanamo, dans les différents camps, les tortures infligées, et sa libération à la fin. À lire, super roman graphique.
Voilà, monsieur. Pourquoi ça s'appelle roman graphique ?
Parce que c'est une histoire comme un roman. Et là, c'est graphique comme une bande dessinée. Il y a des dessins.
C'est un mélange de roman et de dessin, quoi, c'est ça ?
Voilà.
C'est ni une bande dessinée ni un roman, c'est entre les deux.
Voilà.
Tu nous rappelles le titre ?
Guantanamo Kid.
Et on peut trouver ça où ?
Dans toutes les bonnes librairies. BD. Okay. Librairie BD.
Ok, c'est édité par qui ça peut...
D'Argo, en coédition Amnesty International.
D'accord, voilà, très bien. Je voulais vous donner quand même une information, alors je peux aller très vite parce que le temps va nous presser encore une fois, mais une information importante aussi, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Vous savez qu'on fait campagne Amnesty par rapport au respect des droits des femmes, bien évidemment. Et des jeunes filles. Et entre autres, on a un cheval de bataille depuis des années qui est l'interdiction dans les différents pays des mariages forcés. C'est quand même, le mariage forcé, c'est quand même quelque chose qui nous révolte à chaque fois qu'on entend des informations par rapport à ça. Et on a fait une campagne vis-à-vis du Burkina Faso, qui est un pays en Afrique, qui est un pays effectivement où le mariage forcé, comme dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une réalité. Et donc, la ministre de la famille Le ministre de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille du Burkina Faso a répondu très récemment à Amnesty International et a écrit à la présidente pour signaler que toute une campagne avait eu lieu depuis plusieurs années au Burkina Faso et qu'un certain nombre de mesures avaient été prises qui vont dans le sens de ce qu'on demande. Alors ça va être un petit peu long de vous les lister là maintenant, mais sachez qu'il y a effectivement toute une information qui a été faite au niveau du public, qu'il y a des régions au Burkina Faso où il y a des représentants de l'État burkinabé qui veillent effectivement à ce que les mariages forcés ne soient plus appliqués, qui veillent, parce que la loi burkinabé l'a interdit, maintenant il faut que ça passe dans les fêtes. Donc il y a des cellules de veille, il y a 493 cellules de veille qui ont été mises dans différentes régions du Burkina Faso. Il y a des campagnes d'information effectivement aussi bien par rapport aux adultes que pour les jeunes filles qui sont mises en place, hein, pour les jeunes, pas seulement les jeunes filles, qui s'adresse par exemple à 2273 clubs d'adolescentes en milieu scolaire et non scolaire pour des formations sur la santé sexuelle et reproductive et donc l'abolition des mariages forcés. Il y a eu la sensibilisation de plus de 200 000 par an pour cette problématique-là au Burkina Faso. Il y a aussi un plaidoyer qui a été fait à l'encontre de 500 leaders coutumiers, parce que comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a le gouvernement, mais il y a aussi les autorités locales, ce qu'on appelle leaders coutumiers ou religieux, qui eux entretiennent en général assez facilement ce genre d'exactions. Et donc il y a un plaidoyer qui a été fait. Enfin, il y a toute une liste effectivement qui est en cours d'application au Burkina Faso et qui ont permis à cette ministre de dire que si elle est consciente que les défis demeurent importants, le pays s'est engagé avec l'appui financier de la Banque mondiale. Hein, la Banque mondiale donne de l'argent pour des choses intelligentes, pour une fois. À intensifier la lutte contre le mariage d'enfants dans 5 régions à travers la mise en œuvre de tous ces projets. Et elle dit, en conclusion, cette ministre, à Amnesty International, tout en félicitant votre organisation et ses membres pour toutes les initiatives en faveur de la protection des droits humains, je voudrais vous assurer, Madame la Présidente, de la disponibilité de notre pays à répondre toujours à vos préoccupations relatives à la question du mariage précoce et forcé. Voilà. Donc ça c'est un petit résumé, hein. On a des informations plus complémentaires, mais encore une fois, bon, ça fait la conclusion d'une campagne qu'on fait depuis des années avec le Burkina Faso. Il y a une section d'Amnesty d'ailleurs sur place, hein, qui relaie effectivement nos campagnes et qui est aidée, y compris matériellement et financièrement, par Amnesty France, et qui ont permis effectivement à ces avancées-là. C'est autant de jeunes filles, on peut en être certain maintenant, autant de jeunes filles qui ne verront pas leurs droits bafoués à travers des mariages forcés et tout ce que ça représente comme chose intolérable. Voilà, donc ça je tenais quand même à vous en parler. Et puis on a peut-être quelques infos locales à donner aux gens qui nous écoutent.
Cette année, en partenariat avec Principe Actif, est lancée les fréquences des droits humains. La première se passera le 17 octobre.
C'est la troisième.
Excusez-moi, je suis en retard. La première avec une antenne jeune, déjà.
Ouais.
Déjà.
D'accord.
Oui, c'est vrai.
En retard, oui, toujours. À la ramasse, si tu veux, mais bon. La première avec une antenne jeune sur Évreux, au lycée Aristide Briand, sera le 17 octobre à 17h en direct et sera podcastée ensuite. Le thème sera les minorités sexuelles.
Tout à fait. Donc on rappelle que la dernière émission, c'était le 20 septembre dernier, donc la semaine dernière. Le thème, c'était l'engagement. Et ça faisait aussi un lien avec ce que Clarlise vous a dit par rapport à la mobilisation sur les migrants et les réfugiés. Parce qu'en fait, il y avait les Restos du Cœur qui sont venus participer. On a eu un très très beau témoignage d'un jeune originaire du Sénégal. Un jeune migrant originaire du Sénégal qui est en attente aussi pour un dossier de réfugié. Il n'a pas encore la réponse. Et qui s'est engagé au Restaurant du Cœur comme bénévole. Et c'est un bénévole à plein temps, c'est ce qu'il nous racontait, enfin, etc. Il est chargé de faire le tour, entre autres, des grandes surfaces pour récupérer des denrées alimentaires, ce qu'ils font tous les jours. Enfin, il nous expliquait tout son parcours. C'était très émouvant, très parlant, et c'était une mise en application très concrète de choses que nous on dit, enfin, de gens qui viennent chez nous, qui viennent se réfugier chez nous, ce qui est tout à fait noble et normal, et qui, effectivement, ben, se trouvent aussi normal de nous rendre, entre guillemets, la politesse et la monnaie de la pièce en s'engageant avec des organismes comme les Restos du Cœur.
Donc ça, c'était tout à fait bien. On a eu aussi la Ligue de l'enseignement qui a raconté le parcours de jeunes qui sont formés à travers les services civiques, qui sont formés aussi à se mobiliser, à se poser des questions sur leur engagement, etc. Enfin, c'était une très bonne émission. Allez en podcast sur le site de Principe Actif. N'hésitez pas à la réécouter ou à l'écouter si vous l'avez manqué en direct dans la rubrique des émissions qui s'appelle « Fréquences droits humains ». Donc vous avez maintenant deux rubriques sur le site de Principe Actif. Vous avez Amnesty pour ses émissions bimensuelles et Fréquences droits humains pour les émissions spéciales qu'on fait. Et on rappelle que ces émissions sont co-financées par la Fondation Amnesty International. Donc c'est important aussi de le savoir. Voilà. Ça c'est pour des gens qui donnent de l'argent à la Fondation pour savoir à quoi sert leur argent. Ben, il sert effectivement à financer des émissions de sensibilisation aux droits humains, entre autres. Voilà. On rappelle notre prochaine émission.
Le 16 octobre à 19h.
Voilà. Et puis, je pense que Claire-Lise a peut-être encore un petit mot à vous dire sur les migrants et les réfugiés, non ? Parce qu'il nous reste encore 2-3 minutes.
Alors, au cinéma, il y a un film qui va apparaître au niveau national, qui sort en salle le 26 septembre, qui s'appelle Libre. Donc, c'est un film qui retrace le combat de Cédric Héroux et qui avait été sélectionné pendant le Festival de Cannes. Donc, le film Libre, c'est un véritable témoignage sur l'engagement de Cédric Héroux et d'autres pour aider des réfugiés et des migrants. Donc, dans la vallée du sud de la France, la Roya, frontalière avec l'Italie, Cédric Héroux, agriculteur, et cultive ses oliviers. Le jour où il croise le chemin de réfugiés et de migrants, il décide avec d'autres habitants de la vallée de les accueillir, de leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi. Michel Tosca, qui est un ami de longue date de Cédric et qui habite aussi la vallée de la Roya, l'a suivi durant 3 ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric et de tant d'autres. Donc il sort en salle le 26 septembre. On espère qu'on pourra le voir à Évreux parce que c'est une preuve vivante un petit peu de ce qui se passe en France actuellement et de ce qu'on appelle aussi l'engagement citoyen et la résistance des solidarités nouvelles qui se mettent en place par rapport à certaines injustices par rapport aux droits fondamentaux des personnes et un sentiment de prise de position citoyenne comme un contre-pouvoir, en fait.
Tout à fait. Et c'est une personne qui est très engagée aussi, de fait, contre la loi inique du délit de solidarité, qui a été relativisée par le Conseil constitutionnel là, au début de l'été, mais qui, pour autant, n'a pas disparu véritablement des textes. Hein. Il y a encore des possibilités. Donc, de poursuivre des gens avec cette loi inique. Même en parlant du cinéma, je pense que ce film, c'est Libre qui s'appelle, c'est ça ?
Oui, Libre.
Libre, c'est un joli titre. Je pense que ce film, c'est une idée qui me vient comme ça, que j'avais déjà dans un coin de la tête, d'essayer de faire une soirée spéciale avec le cinéma. Je pense qu'on va en reparler à monsieur le nouveau directeur, il y a un nouveau directeur au cinéma d'Évreux. Donc voilà, on va lui en parler pour essayer de mettre ça sur pied, on vous tiendra bien évidemment au courant, et si c'est le cas, on espère que vous serez nombreux à voir ce film et à venir discuter avec nous. Voilà, donc on se retrouve maintenant le 16 octobre, c'est ça, pour notre prochaine émission en direct. D'ici là, on vous rappelle quelques adresses, vite fait, il nous reste une minute, quelques adresses, donc le mail d'Amnesty Évreux si vous voulez nous contacter par rapport à ce qu'on a dit dans les émissions, si vous voulez des éclaircissements, des renseignements, ou si vous voulez participer à des actions avec nous, n'hésitez pas, donc c'est amnesty.evreux@gmail.com. Le site d'Amnesty France, amnesty.fr, il y a plein d'informations dont on utilise pour nos émissions, mais pas que. Vous avez des pétitions à signer, vous avez des choses à faire. Et il y a aussi le site du secrétariat international sur lequel vous pouvez même co-signer des mails vis-à-vis de différentes autorités. Donc le site du conseil du secrétariat international, c'est amnesty.org. Et donc, vous avez la version française, hein, vous avez un petit encart sur la première page, vous avez la version française, c'est aussi en anglais, en espagnol et puis en arabe, je crois. Mais vous choisissez la version française, c'est plus facile. Et puis, vous avez un onglet aussi qui s'appelle Agir. Et dans l'onglet Agir, vous avez la possibilité de co-signer des mails envoyés à différentes autorités dont on vous parle dans les émissions, qui sont tout prêts. Vous avez juste votre nom à mettre en bas avec votre adresse mail et c'est envoyé par le secrétariat international. Encore une fois, ce sont autant d'actions pour faire pression au niveau des gens qui sont en mesure de décider si on respectera ou non les droits humains. Et pour nous, évidemment, c'est oui.
Oui, et une dernière adresse mail pour ma déclaration, amnesty.fr, envoyez votre vidéo de 70 secondes.
Voilà, on vous en reparlera. Sur ce, bonne soirée à tous et à très bientôt, au mois prochain.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.